qu'on observe en ce moment lors de cette rentrée universitaire scolaire bien particulière, la crise sanitaire, on le voit, a très nettement féminisé les admissions dans les grandes écoles. Il faut dire qu'évidemment, à cause de la Covid, la sélection ne s'est pas faite comme d'habitude, c'est-à-dire sur un écrit et sur un oral. Comme c'était impossible d'organiser des épreuves en présentiel, le recrutement s'est fait sur examen des notes et du CV ou encore d'une lettre de motivation. Le résultat, il est vraiment, vraiment spectaculaire. Dans une école d'ingénieurs qui se situe à Lille, par exemple, le nombre d'admises a doublé par rapport à l'an passé, alors que la part des femmes parmi les candidats est exactement la même. On obtient le même chiffre dans beaucoup d'autres écoles sur le territoire. Même phénomène dans les instituts d'études politiques à Sciences Po Paris. On est passé de 60% de filles, ce qui était déjà beaucoup, à 72%. Dans d'autres, comme à l'IEP Grenoble, on atteint 85%, presque 80% de femmes dans les salles de classe. Il y a une élève qui raconte dans le journal Le Monde qu'en cours, un prof emploie même le féminin pour s'adresser à toute la classe, qui compte seulement 3 garçons pour 12 filles. Et parmi les nombreuses raisons invoquées pour expliquer ces résultats, les jurés auraient des biais sur le genre, sur l'apparence physique, sur l'apparence vestimentaire. Et puis aussi, et ça c'est intéressant, les femmes sous-performeraient à l'oral parce qu'elles sont moins incitées à prendre la parole habituellement. Pascal Bruckner, est-ce qu'on peut, si on suit ce raisonnement-là, est-ce qu'il faudrait supprimer les oraux, anonymiser les examens pour donner sa chance à tous et à toutes, en l'occurrence à l'école aujourd'hui?
Oui, pourquoi pas. J'avoue que je n'ai pas un avis tranché là-dessus, mais c'est parce que ce que l'on constate, c'est que dans tous les pays du monde, y compris dans le monde arabo-musulman, les femmes sont plus diplômées et apprennent plus facilement que les hommes, malgré des structures archaïques, et qu'en France, c'est évident qu'elles sont en train de gagner la bataille de l'éducation et de la culture. Alors c'est un processus très lent, à l'exception d'un seul domaine, qui est le domaine des sciences dures, des mathématiques, notamment. Alors est-ce que c'est en raison d'un blocage de la société qui essaye de freiner l'avancée des femmes, ou est-ce que c'est dû à d'autres choses? Mais il est vrai que dans les générations qui montent, la dynamique de l'égalité me paraît absolument irréversible, et que donc la parité va s'installer de façon mécanique.
Au cas de dialogue, le projet de la République française, au départ, est un projet universel, et la France est maintenant prise dans des débats incessants sur l'identité, sur la race, sur le genre. Est-ce que ça n'est pas une défaite d'en arriver là ?
De l'universalisme.
De l'universalisme, c'est de partir du point de vue des personnes les plus potentiellement discriminées pour leur garantir l'accès aux droits qui fondent les valeurs de la République. C'est intéressant que vous parliez justement de la République et de ses valeurs, parce qu'on a eu ce reportage sur la parité en 1999. Pour permettre à la loi de favoriser les femmes, il a fallu transformer et changer, réviser la Constitution pour inclure la possibilité de distinguer les femmes en fonction de leur genre. Et en réalité, cette loi de la parité qui a été promulguée en 2000 a transformé la vie politique française. Et aujourd'hui, personne ne dirait que ça a été quelque chose qui a été en contradiction avec les valeurs de la République. Pourtant, il a fallu revoir en fait la manière dont les principes étaient énoncés pour permettre aux femmes tout simplement d'entrer dans la vie politique. Et je ne pense pas qu'il y ait une femme qui soit moins compétente.
Dans la Constitution, sur d'autres...
Ce que je pense, c'est que les principes de la République sont des principes qui sont égalitaires, et que de parler de personnes qui sont minoritaires, ce n'est pas fracturer la République. Au contraire, c'est lui permettre d'embrasser ses valeurs et de les appliquer à tous et à toutes. Et puis après, ne nous mentons pas sur la République. La République a été tout à fait capable dans le passé de renoncer à ses propres principes en étant coloniale, en reconnaissant par exemple le statut de Français indigène en 1881, en reconnaissant un statut de Français musulman. Donc cette République, parfois, elle sait s'ajuster à ses intérêts économiques et à ses intérêts coloniaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, les personnes que l'on dit non... En fait, il y a des personnes qui sont universalistes, mais de manière autoproclamée. Moi, je ne me considère pas comme une non-universaliste. Simplement, je crois, en tout cas... je pense que je suis universaliste aussi. Simplement, je considère qu'on doit tenir compte de tout le monde, et que la personne qui est handicapée, qui est noire, qui est LGBTQIA, c'est une personne dont la condition doit être centrale, au même titre que celle des gens qui sont en position de domination sociale.
Votre idéal de société, Pascal Bruckner?
Je pense qu'il y a vraiment deux modèles qui s'opposent aujourd'hui. Le modèle anglo-saxon-américain, qui effectivement fait la part à chaque minorité au risque d'un émiettement ou d'une fracturation de la société. D'ailleurs, ça explique en partie la défaite de Hillary Clinton en 2016. Et le modèle français, qui est universaliste et qui considère que l'égalité de tous les citoyens, en dehors de leurs caractéristiques particulières, est plus importante que leur origine sociale, leur croyance ou leur couleur de peau. Tout le débat que nous avons aujourd'hui autour de l'islam et de l'islamisme vient de là. En France, la croyance est secondaire par rapport à la manière dont on vit l'espace public. Et moi, j'en tiens pour le modèle français. Et je voudrais citer un écrivain afro-américain qui est un ami, Thomas William Chatterton, qui est venu s'exiler en France parce qu'il ne supporte plus le racialisme obsessionnel des Américains. Et ici, au moins, il respire comme beaucoup d'écrivains afro-américains avant lui.
Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait un monde anglo-saxon qui fasse bloc. Les États-Unis sont les États-Unis, le Royaume-Uni est le Royaume-Uni. Vous considérez que les croyances sont secondaires. Moi, je vous amène quand même au premier article de la Constitution française qui nous régit actuellement, qui dit « La République respecte toutes les croyances ». Et ça, c'est au premier article. Oui, mais ça veut dire que ce n'est pas secondaire.
Si, je sais que pour vous, c'est essentiel.
Non, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez absolument rien de moi.
Excusez-moi, je vous connais depuis un certain temps.
Vous ne connaissez pas ?
S'il vous plaît.
Non, je ne vous connais pas personnellement, mais je vous ai lu. Je sais quels sont vos engagements.